Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Modeste Schwartz. Bonjour, Modeste, vous êtes, pour vous présenter, ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes linguiste, vous êtes européen, parce que vous avez été en Roumanie, vous avez vécu à Rome, en Hongrie, donc à Rome, en Italie, vous êtes spécialisé, vous êtes traducteur aussi, et vous avez publié un livre qui a été très remarqué, à la fin de la crise sanitaire, Le magicien de Davos, vérité et mensonge de la grande réinitialisation. C'est un livre qui a vraiment eu beaucoup de succès sur ce personnage qui est Klaus Schwab, dont on a tant parlé. On a le sentiment que vous poursuivez ce travail d'analyse et d'enquête à travers votre nouveau livre qui vient de sortir, Covid 1204-2020. D'abord, ma première question, pourquoi Covid avec un K, comme s'il s'agissait de donner quelque chose de plus violent. Le K semble être plus violent que le C qui est plus doux.
Alors, en effet, je bouge beaucoup, hein, quoique étant citoyen français, j'ai passé assez peu de temps en France au cours des deux dernières années pour des raisons facilement compréhensibles. Et je continue à changer de pays assez souvent, ce qui contribue peut-être à entretenir ma liberté de parole et puis peut-être ma liberté tout court, si on considère que mon, disons, collègue d'écurie, Éric Verhaegh, lui aussi publié aux éditions Culture et Racines, vient, paraît-il, d'être mis en garde à vue en Normandie. Alors, on ne connaît pas encore les détails, mais bon, je les attends évidemment avec beaucoup de curiosité, parce que je m'attends depuis assez longtemps à un tour de vis du pouvoir sur les gens, les rares opposants, disons, qui osent appeler les choses par leur nom. Mais bon, cette parenthèse refermée, oui, effectivement, Covid est effectivement la suite. On a même décidé, donc avec mon éditeur, de présenter ça comme le troisième volet d'une trilogie. Bon, il faut savoir que c'est mon troisième titre chez Culture et Racines. Le premier, qui a déjà plus de deux ans, avait été écrit avant la crise covidienne, était sorti au tout début, en réalité pendant le premier confinement, s'intitulait Yin. Oui. Le second, qui a fait plus de bruit à peu près un an plus tard, est paru, comme vous l'avez dit, sous le nom du magicien de Davos, et constitue avant tout un commentaire du texte qui était à l'époque le dernier texte, ils en ont commis d'autres entre-temps, du tandem Klaus Schwab, donc président à vie du Forum économique mondial, surnommé Forum de Davos. Alors Forum, ça oui, économique je mettrai entre guillemets, mondial je mettrai aussi entre guillemets, mais en tout cas c'est le Forum de Davos, celui qui organise ces fameux grands raux oligarchiques annuels de chaque printemps ou fin d'hiver à Davos. Un peu plus d'un an plus tard, en réalité il y a quelques jours, si on prend la date de sortie de presse, est paru le troisième tome. Alors je m'empresse de préciser que au moment où j'ai écrit Yin et au moment où j'ai sorti Le magicien de Davos, je ne considérais pas ces deux volumes comme les deux premiers tomes d'une trilogie. Et c'est finalement en écrivant le troisième tome que je me suis rendu compte que tout cela finalement constituait un cycle et que depuis on considère ça comme une trilogie. Le troisième tome s'intitule donc, comme vous l'avez déjà dit, Covid ou Covid. Donc c'est évidemment le nom de cette fameuse pandémie invisible, en tout cas dans les chiffres démographiques, elle est parfaitement invisible. D'autres diraient, hein, les mauvaises langues diraient de cette PSYOP, donc opération psychologique, qui a été implémentée sous le nom de Covid. Et c'est vrai que j'ai adopté longtemps avant la parution et même l'écriture de ce texte, j'ai adopté cette orthographe un peu spéciale avec K à la place du C, avec un E danois, donc le O barré, si vous voulez, qui dans certains langages mathématiques symbolise aussi le zéro, et un I long, donc un I accent aigu qui en hongrois, par exemple, indique un I long. À l'origine, c'est une orthographe que j'avais adoptée pour des raisons qui sont désormais familières à tous les malpensants, disons, parce que notamment sur un certain nombre de plateformes Internet, il faut évidemment très adroitement slalomé entre les mots-clés qui permettent à des algorithmes, parce que la censure est très largement confiée à ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, tout simplement des algorithmes informatiques. Donc, il faut essayer de contourner, alors soit par des synonymes, on connaît l'usage qui a été popularisé par mon ami Slobodan Despot de résinage pour désigner certaines opérations d'injection qui seraient censées. Enfin bon, voilà. Et alors pour ma part, j'ai eu recours à cet artifice graphique, en quelque sorte. Au début, c'est simplement une sorte de variante graphématique, dirait les linguistes, donc d'orthographe alternative, pour éviter d'avoir à aligner les caractères C, O, V, I, D. Bon. Entre-temps, c'est vrai que ça a pris un sens un peu différent, parce qu'entre-temps, ma compréhension du phénomène, je ne parle pas du tout d'un phénomène épidémiologique, biologique, virologique ou quoi que ce soit, hein, ce n'est pas du tout mon domaine, moi je par ma formation, comme vous l'avez rappelé, je suis linguiste. Ensuite, j'ai un peu travaillé comme publiciste, comme journaliste. J'ai couvert des thèmes d'actualité en Europe centrale, notamment pour le Visegrad Post. Bon. Donc, il s'agit absolument pas de prise de position sur je ne sais quel thème sanitaire, etc. De toute façon, ma position de base, c'est de considérer qu'à partir du moment où il n'y a pas de réalité démographique, bon, il n'y a pas de pandémie, donc il n'y a pas eu d'événement sanitaire, si vous voulez. Maintenant, il commence à y avoir un événement sanitaire, mais c'est plutôt la conséquence que la cause, d'ailleurs. Bon. Et donc, finalement, à partir du moment où j'arrivais à une compréhension, on va dire, culturelle, politique, philosophique, un peu plus profonde du phénomène, je me rendais compte que ce qu'on a appelé la crise Covid, c'était finalement la culmination de quelque chose de beaucoup plus profond dans la culture occidentale. Et c'est ce qui m'a amené à cette idée de donc c'est ce qu'a fini par vouloir dire ce Covid, si vous voulez, cette orthographe qui à l'époque était simplement une orthographe alternative, hein. Bon, avec K et bon, c'est le sens que ça a fini par prendre entre, si vous voulez, l'écriture de ce texte et sa publication. Bon, sachant que il y a le titre initialement prévu n'était pas celui-là. J'avais initialement prévu d'appeler ça un roman. Alors ça, évidemment, ça a fait peur à tous les éditeurs avec lesquels je suis en contact, parce que bon, pour eux, évidemment, roman, c'est le titre d'une catégorie de textes d'un genre. Bon, donc donner à un texte particulier le titre qui est celui d'une catégorie, eux, ils considèrent ça comme extrêmement troublant, dangereux, perturbant le lecteur, l'acheteur potentiel, etc. Bon, c'était d'ailleurs un peu le but, mais bon, en tout cas, les éditeurs, j'en ai consulté plusieurs, n'étaient vraiment pas disposés à me suivre dans ce choix un peu audacieux. Et donc, on s'est fixé, finalement, mais avec mon plein accord, parce que je considère ce titre comme tout aussi adéquat, si vous voulez, au contenu du texte que celui que j'avais initialement prévu. Et qui reste finalement, c'est-à-dire, c'est un peu un roman, c'est un peu le dernier roman. Les lecteurs de l'introduction de l'ouvrage comprendront assez facilement ce que je voulais dire par là, dans la mesure où c'est finalement une sorte de réflexion philosophique sur l'Occident sur toute sa durée, puisque maintenant on a atteint la fin, donc on peut en parler de manière déjà presque rétrospective. Et il se trouve que l'Occident a commencé par des romans. Hein, Don Quixote avant tout, qui est lui-même d'ailleurs déjà une critique du roman de chevalerie, et puis ensuite à travers Candide, à travers Madame Bovary, à travers, voilà. Donc l'histoire de l'Occident, c'est un peu finalement aussi une histoire du roman, et là on peut penser aux réflexions par exemple de Mikhail Martine, hein, le fameux narratologue russe sur la question. Mais c'est aussi l'histoire du Covid, dans le sens que j'ai fini par donner à ce mot. Alors, dans une compréhension, si vous voulez, assez concrète, assez myope, assez tout à fait directe, on pourrait dire que c'est l'histoire du safetyism, hein, c'est ce concept dont a accouché le philosophe américain Matthew Crawford, pour décrire ces phénomènes qui ne s'arrêtent pas à la crise covidienne, hein, ça avait commencé longtemps avant, ça a l'air de pouvoir se poursuivre sous d'autres masques, alors maintenant, ça va être la variole du singe, ça va être bon, voilà. Et si vous voulez, c'est cette idéologie du risque zéro que notre président Emmanuel Macron a lui-même d'ailleurs parfaitement résumé par cette formule qui, pour moi, est le véritable mot d'ordre du covidisme. Hein, beaucoup ont considéré, se sont arrêtés à des parce qu'il a comme ça évidemment beaucoup de, hein, de formules. Hein. C'est un expert, c'est un acteur, hein, finalement. Il faut se souvenir, hein, à l'origine, ce qui a mené d'ailleurs à sa découverte par cette créature qu'on appelle Brigitte Macron, c'est sa participation à un groupe de théâtre lycéen. Bon, donc il a une vocation d'acteur, comme un certain Zelensky. D'ailleurs, c'est intéressant. Bon, alors Zelensky, qui l'a poussé un peu plus loin, hein, faut dire, il est arrivé à des réalisations un peu plus convaincantes dans cette carrière-là avant de passer à la politique. Bon, donc évidemment, il multiplie les bons mots, les formules frappantes, etc. Il y a toute une équipe de communicants, je pense, qui s'en charge. Et généralement, les gens ont plutôt fait une fixation sur la bête de l'événement ou encore sur le « nous sommes en guerre ». Mais pour moi, la véritable devise macronienne, si vous voulez, du covidisme français, c'est « quoi qu'il en coûte ». Pour moi, c'est vraiment ce mot-là qui résume en réalité bien au-delà de l'idéologie du Covid, parce que c'est quand on dit quoi qu'il en coûte, en réalité, ce qu'on dit, c'est qu'on a renoncé à la rationalité. Et d'ailleurs, on voit très bien en ce moment que c'est aussi plus ou moins la devise qui guide les élites euro-occidentales dans ce que eux présentent comme une guerre avec la Russie, laquelle Russie n'a pas l'air extrêmement concernée. Hein. Ils ont toujours pas fait de mobilisation générale, ils continuent à livrer de l'uranium à la France, etc. Bon, de toute évidence, c'est un truc qui est censé s'arrêter au bout de 3-6 mois, enfin bon, on verra déjà, mais bon, c'est une guerre, si vous voulez, dans les médias occidentaux. Dans le reste du monde, bon, bah, c'est la continuation d'un petit conflit local, une guerre civile en Ukraine, etc., mais qui fournit le prétexte, en revanche, à une politique de sanctions qui, comme par hasard, exactement comme la crise dite du Covid, finit par réaliser les objectifs du fameux Green Deal. Alors, souvenons-nous, hein, c'était avant le Covid, Ursula von der Leyen, créature de Klaus Schwab, comme Macron, comme tant d'autres, hein, y compris des gens dont on ne s'attendrait pas tant, hein, Viktor Orban, Vladimir Poutine, bon, était venue devant le Parlement européen avec son fameux projet de Green Deal, et s'était vu opposer une fin de non-recevoir, parce que c'est évident, parce que c'est un suicide économique, parce que personne n'est assez fou, en réalité, pour de sang-froid signer ce genre de truc. Bon. Et puis, bah, finalement, sous le Covid, une grande partie du paquet est déjà passée sous le nom de plan de relance post-Covid, et qui a été signé, hein, rappelons-le, y compris par les gens qu'on considère comme de grands opposants, etc. Il n'y a pas eu d'opposition déclarée, si vous voulez, de gens comme Salvini, Orban, etc., à ce plan. Et puis maintenant, si vous voulez, comme pour enfoncer le clou, le même plan est finalement mis en œuvre sous le nom encore plus, on va dire
sous l'alibi de l'écologie. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est l'alibi de l'écologie, oui. Maintenant.
Finalement. Ah oui, oui, bien sûr. Mais ça va au-delà de l'écologie, hein. C'est-à-dire, en réalité, c'est...
J'ai dit que c'était l'alibi officiel quand on interroge les gens dans la rue.
Oui. Ben, il y a une expression qui revient de manière presque obsessionnelle dans les textes de Klaus Schwab, c'est d'après l'opinion d'une majorité d'experts. Alors, quand on dit une majorité, ça veut dire qu'il y a un quorum, parce que sinon, on ne peut pas calculer la majorité. Bon, en l'occurrence, il s'agit d'un quorum...
D'experts, c'est quoi ?
Pardon ?
C'est qui ? C'est quoi, ces experts ?
Ah oui.
Ça ne veut rien dire.
C'est toute la question, parce qu'évidemment, pour qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait un quorum. Or, ce quorum, ben, évidemment, en réalité, il est défini par Davos. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Klaus Schwab dit « d'après l'opinion d'une majorité d'experts », il dit « à mon avis ». Mais il se cache derrière tout un tas de gens qu'il a en réalité financés, puisqu'il l'explique lui-même. Hein. Davos est avant tout une plateforme de cooptation non seulement de politiciens de premier plan, mais aussi et avant tout de scientifiques. C'est-à-dire que ces gens-là maîtrisent le récit scientifique qui guide les politiques occidentales. Et puis donc, vous voyez, c'est une boucle. Hein. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait le Green Deal ? Parce que les experts
Mais ces experts ne représentent qu'eux-mêmes, c'est ce que vous dites, modèle, ces experts. C'est comme si moi je disais, d'après l'opinion d'une majorité de membres de ma famille, on trouve que je suis quelqu'un d'exceptionnel.
Oui.
Voilà,
C'est-à-dire que les... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les gouvernants de premier plan cooptés par Davos, les Ursula von der Leyen, les Draghi, les Macron, et puis, mais il faut pas oublier la division B, hein, qui sont en plein échauffement derrière au cas où il faudrait les remplacer, donc les Salvini, les Le Pen, les Orban, etc.
Pourquoi vous les mettez dans le même lot, alors que pour une majorité de gens qui nous écoutent, vous avez même mis Poutine dans le même lot, c'est-à-dire ce sont justement eux qui sont en opposition aux magiciens de Davos et à cette grande réinitialisation économique de la société que nous sommes en train de vivre. Et vous, vous dites non, finalement. C'est le cœur de remplacement, c'est l'équipe de remplacement, c'est ce que je comprends.
Oui, tout à fait, c'est la division B. Alors, je sais bien qu'ils ont des propagandistes, certains d'entre eux assez influents dans les milieux dits dissidents, etc., et qui s'acharnent à vous expliquer que ces gens-là sont fermement opposés, etc., etc. Alors, le problème, c'est que tout ça, en termes même d'une simple éthique journalistique, repose sur du vent. C'est-à-dire que je les mets au défi de me trouver une déclaration vraiment univoque, explicite, que ce soit d'ailleurs de Viktor Orban, de la famille Le Pen, de Salvini, etc., contre cet agenda de Davos. Ça n'existe pas, ils n'en ont jamais fait, et pour cause, puisque leur programme, si vous voulez, de gouvernement, alors qui en France est un pur
Est-ce
programme…
Est-ce qu'ils ne sont pas contre, s'ils n'ont fait aucune déclaration, c'est peut-être qu'ils ne sont pas au courant.
Si, à ce niveau-là, j'aurais beaucoup de mal à imaginer qu'ils ne soient pas au courant. D'autant plus qu'à la différence des membres de la famille Le Pen, qui finalement n'ont jamais vraiment brigué le pouvoir, aussi bien Viktor Orban que Vladimir Poutine ont été sélectionnés et formés par Klaus Schwab. Alors je sais que je vais d'entrée de jeu me heurter à des objections qui pour moi sont assez spécieuses, selon lesquelles Vladimir Poutine, à la différence de Viktor Orban, c'est parfaitement attesté, hein, il faisait partie à Davos de la même promotion qu'Angela Merkel, d'ailleurs il ne l'a jamais caché, il a toujours reconnu d'ailleurs, il a toujours salué en la personne d'Angela Merkel son tuteur, si vous voulez, c'est-à-dire que ils étaient de la même promotion, mais il y avait l'élève plus avancé.
Oui, mais on peut très bien assister aux travaux Davos compte tenu de leur importance mondiale, parce qu'il fallait y être. Dès qu'on est un chef d'État, on doit être à Davos, sans pour autant ressortir en signant le bon de commande.
Oui, enfin, vous savez, sauf que ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, il y a une très très longue liste de chefs d'État qui n'ont jamais été Young Global Leader de Davos, comme par exemple Viktor Orban, qui n'ont pas non plus eu des... Parce que je reviens à ce que je disais avant, c'est-à-dire Vladimir Poutine, effectivement, n'a probablement jamais été Young Global Leader, mais pour la simple raison qu'en réalité, quand son nom a commencé à être connu dans la politique russe, il avait dépassé la limite d'âge pour participer à ce programme. En revanche, ses liens avec Klaus Schwab date et des liens très étroits date d'avant sa percée même sur le plan de la politique locale russe, c'est-à-dire qu'avant de devenir un apparatchik assez en vue de l'équipe au pouvoir, l'équipe municipale au pouvoir à Saint-Pétersbourg, il avait déjà des liens très étroits avec la Schwab, mais il ne l'a jamais caché. Il le rappelle même dans son discours, dans l'introduction de son discours au dernier forum de Davos auquel il est participé en téléconférence. Bon, donc je cite vraiment, je travaille avec le matériel.
Alors est-ce qu'on peut aussi prendre l'hypothèse que ça aurait été le mauvais élève et qu'il aurait été dans la bande à un certain moment et puis s'est fâché avec la bande ? Est-ce que ça peut être une hypothèse ?
Je connais cette hypothèse, elle est véhiculée par de nombreux milieux, disons, de nombreux cercles de réflexion, de nombreux médias, etc., de la dissidence française, qui perpétue sous la forme d'une poutinolatrie à laquelle moi je n'adhère plus, la vieille tradition en soi parfaitement respectable, au demeurant, de russophilie des nationalistes français. Je le comprends. Simplement, il se trouve que factuellement, c'est faux. C'est-à-dire que dans ce cas-là, par exemple, on aurait pu s'attendre à ce que, à partir du déclenchement de ce qu'on appelle en Russie l'opération spéciale et en Occident la guerre contre l'Ukraine, qui effectivement, vu de Russie d'ailleurs, ressemble plutôt à une opération de police, puisqu'encore une fois, il n'y a pas eu de mobilisation générale. Il y a peut-être un cinquième de l'armée russe impliqué dans cette opération. Et les liens économiques avec l'Occident, qui seraient vraiment de nature à paralyser l'appareil économique de l'Occident, n'ont pas été rompus unilatéralement par la partie russe. Hein, bon. Mais on aurait pu s'attendre qu'à partir du déclenchement de cette opération, donc fin février de cette année, le programme, disons, je dirais, de biosécurité, c'est-à-dire en fait le covidisme dans sa version russe, disparaissent ou au moins soient considérablement ralentis. Or, il s'est passé exactement le contraire, c'est-à-dire qu'au contraire, l'agenda de la biosécurité, comme l'a très très bien documenté, alors certes en anglais, désolé pour les non-anglophones, mais sur son blog, le journaliste Edward Slavskoat, qui est un ancien, qui est un transfuge de Russia Today, qui appartenait à la rédaction anglophone de Russia Today et qui l'a quitté il y a un an et demi parce qu'il a compris que Russia Today ne le laisserait pas faire un travail honnête, journalistique honnête sur le covidisme en Russie, c'est-à-dire la version russe du Great Reset, hein, pour dire les choses simplement. Et depuis, donc, en tant que journaliste indépendant, il a un blog, etc., et il documente de façon parfaitement minutieuse ce progrès de l'agenda du Great Reset, parce que c'est pas seulement la biosécurité, c'est aussi la numérisation accélérée de la société, présage à l'élimination de l'argent liquide, bien entendu.
J'allais le dire, la disparition de l'argent liquide.
Oui.
Voilà. Et présage à quoi d'autre ? Vous alliez dire aussi autre chose qu'au moment où je vous ai interrompu.
Et finalement, à la disparition de la propriété privée, à part la propriété privée des milliardaires. Hein, bon. Donc tout ça est un programme que l'élite davosienne ne cache d'ailleurs pas. Hein, je veux dire,
à travers cette fameuse phrase, vous ne posséderez plus rien et vous serez plus heureux. Et vous serez plus heureux.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est un clip, hein, ça, c'est le fameux clip publicitaire émis par le Forum économique mondial de Klaus Schwab.
Encouragé par toute une partie de la jeunesse à qui on explique que l'économie de la propriété est dépassée et qu'on est maintenant dans la location permanente.
Oui, voilà, parce qu'on appelle ça aussi, l'économie carbone. Alors, il y a juste un problème, c'est que l'économie carbone, c'est l'économie de l'espèce humaine. Parce que l'espèce humaine, elle a cette mauvaise manie de boire, de manger, de se reproduire, de se mettre à l'abri des intempéries, donc sous forme d'habitat, de logement, et que tout ça, ça consomme du carbone. Alors, j'entre pas dans les détails, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette diabolisation du carbone, qui est en réalité une chose parfaitement naturelle, etc. Mais à la rigueur, c'est super.
Oui, mais est-ce que c'est aussi le prétexte à nous mettre un pass écologique avec notre crédit carbone, et qu'on est en train de travailler, de travailler là-dessus. Le Parisien a même lancé un ballon d'essai il y a très peu de temps. Le journal.
Bien sûr, mais c'est beaucoup plus que le pass carbone. Je veux dire, c'est parce que derrière le pass carbone,
il y a la propriété privée.
Vous allez avoir la reconnaissance faciale, le crédit social. C'est un projet de société bolchévique. Klaus Schwab lui-même ne s'en cache absolument pas. Vous savez, il se laisse filmer, il donne des interviews dans son bureau de président à vie. Hein, je mentionne ce petit détail au passage parce que c'est tellement démocratique que bon, voilà, de président à vie du Forum économique mondial. Devant une bibliothèque, sur les étagères de laquelle on reconnaît très facilement un buste de Lénine. Vladimir Ilitch Ulyanov dit Lénine, le chef du bolchevisme russe qui a aboli la propriété privée dans ce qui allait devenir l'URSS. Bon, c'est Staline qui a fini le boulot, mais parce que Lénine est mort entre-temps. Mais bon, donc le programme est quand même d'une extrême clarté. Bon, je sais bien que certains aimeraient se bercer de l'illusion que la Russie actuelle, la Chine, etc.
Alors on va passer sur la Russie, parce qu'on a parlé de ceux qui sont en catégorie A, ceux qui sont en arrière-plan, on allait dire les figurants ou les remplaçants. Alors face à cela, où est l'opposition ? Qui sont les gens sincères ? Est-ce le peuple, finalement ? Est-ce le peuple qui l'ignore ? Est-ce lui qui a les clés ?
Alors, parlons des dirigeants, parce que eux au moins, ils sont dans ce que Hegel aurait appelé la catégorie de l'universel, c'est-à-dire ils sont par définition dans la vie publique, que ce soit leur action, leur pensée ne relève pas de l'interprétation, c'est exposé aux yeux de tous, par définition, c'est public. Or, cet argument que j'entends très souvent, il faut venir à Davos, qu'il faudrait même peut-être participer, alors qu'on n'est même pas encore un dirigeant, mais en tant qu'homme politique, on va dire prometteur,
ça fait
au
chic.
Programme de Klaus Schwab, pour simplement pouvoir entrer dans le jeu et évidemment mettre en œuvre après une politique tout à fait différente de celle qu'on espère de vous, etc. Donc c'est cette espèce d'argument de l'entrisme, si vous voulez. Bon, sauf que c'est faux. C'est-à-dire il y a une très très longue liste de leaders mondiaux en partie actuellement au pouvoir, et puis certains, et ça n'est à mon avis pas un hasard, qui ne sont plus au pouvoir, entre autres parce qu'ils ont été éliminés généralement physiquement par les forces de l'Empire euro-occidental, qui n'ont jamais fait partie de ces programmes. Hein. Saddam Hussein n'a jamais été
J'allais
un global leader.
Ah ben, on a une transmission de pensée. J'allais le citer. Vous n'avez pas cité Donald Trump
pas, Je suis pas en train de vous dire que Saddam Hussein était un saint.
Non, mais ça, c'est pas la question.
Mais le fait est qu'il a longtemps été le numéro un du régime irakien, que le peuple irakien s'est assez largement reconnu en lui, qu'il a porté le projet.
On va pas revenir sur Saddam. En plus, je l'ai un peu connu.
Effectivement, c'est.
Et je l'ai rencontré.
C'est pas la question, mais le fait est que lui n'était pas Young Global Leader.
Oui, vous n'avez pas cité le nom de Donald Trump.
Donald Trump non plus. Semble-t-il, n'a jamais trop traîné ses guêtres à Davos, pas plus que Muammar Kadhafi. Hein, je continue la liste de ceux dont la sortie de scène a été un peu violente. Pas plus d'ailleurs que les divers membres que je ne porte pas dans mon cœur. Hein, c'est pas ça l'élection de la famille Assad, hein, Hafez al-Assad,
et Bachar
al-Assad, etc. Pas plus que et là c'est intéressant parce qu'on se rapproche de la Russie. Alexandre Loukachenko. Qui, comme par hasard, est aussi un des seuls dirigeants européens, parce que la Biélorussie est un pays européen, à n'avoir non seulement pas suivi le programme covidiste, mais à l'avoir même dénoncé. C'est-à-dire que lui, il est allé encore plus loin que les Suédois. Vous savez que les Suédois ont en quelque sorte adopté leur politique tout à fait habituelle sur les 200 dernières années, de feindre une espèce d'adhésion au discours dominant en Europe continentale, parce qu'ils en sont dépendants commercialement. Mais en réalité de ne rien réellement mettre en œuvre, hein. C'est-à-dire que aucune de ces fameuses mesures qu'on a présentées comme absolument nécessaires pour éviter une catastrophe sanitaire, etc., rien de tout ça n'a jamais été obligatoire en Suède. La Suède, remarquez-le au passage, n'a pas disparu, sa population non plus, hein, il n'y a pas eu de surmortalité, il n'y a pas eu de bon, voilà.
Les cimetières suédois,
mais en revanche, ils se sont, comme d'habitude, soigneusement abstenus de cracher dans la soupe. Hein, c'est-à-dire qu'officiellement, hein, au niveau des déclarations gouvernementales, la Suède adhère au récit covidien et a simplement fait valoir son droit à un peu gérer de manière un peu plus spécifique.
Bon, voilà. Autonome.
Alexandre Loukachenko n'a pas eu ce genre de pudeur. Lui, il a non seulement dit... noir sur blanc, si vous voulez, sans aucune forme d'équivoque, que bon bah écoutez, désolé, c'est une grippe, on va pas saboter notre économie, on va pas faire revenir notre économie de 20 ans en arrière pour empêcher 3 nonagénaires de mourir d'une grippe, à supposer qu'on puisse les en empêcher d'ailleurs, ce qui est une autre question, mais bon, voilà, et que écoutez, bah si vous le chopez, faites un sauna, buvez un peu de vodka et transpirez autant que vous pouvez. Et ça vous passera, méthode que j'ai d'ailleurs moi-même appliquée. Hein, je précise au passage que ça marche. Bon, mais il est allé encore plus loin. Il a réellement vendu la mèche en publiant dans une interview, en rendant public le montant exact de l'argent que lui a proposé la Banque mondiale, c'est-à-dire le pouvoir financier mondial pour mettre en œuvre l'agenda covidiste dans son pays.
J'ai vu ça. Et qu'il a refusé. Quand vous dites que cette méthode marche, elle a marché sur vous. Voilà, je dois prendre des précautions d'usage. Parce qu'on est à la radio.
Oui, non, je généralise.
Vous n'avez pas dit. Voilà, elle a marché sur vous, Modeste Schwartz.
Oui, moi, je ne fais pas de médecine.
Voilà. Oui, mais moi.
Je ne fais pas de médecine.
Je vais te faire attention aussi.
Je ne fais pas de médecine. Non, je ne fais pas de médecine, je ne fais pas de biologie, etc. Il se trouve qu'au début de 2020, d'ailleurs, avant que l'hystérie collective commence, c'était encore en février, j'ai eu une sorte de syndrome grippal comme ça.
Voilà, mais je voulais qu'on termine, parce qu'on arrive déjà au bout, et puis on refera une autre émission, on parlera évidemment encore du livre Covid 1904-2020, votre nouveau, celui de Modeste Schwartz chez Culture et Racine, mais il nous reste encore juste quelques minutes. Je voulais terminer finalement en essayant d'interpréter ce que vous dites. On croit que le film n'est pas encore fini et on attend de voir la fin du film. En réalité, le film de l'Occident est déjà fini. Est-ce que c'est un peu cela ?
Oui, c'est un peu ma manière de voir les choses. Donc, effectivement, autant au moment de l'écriture du Magicien de Davos. C'est un livre qui restait assez
politique. Pourquoi l'avez-vous fait commencer en 1204 et cette référence évidemment à Constantinople ? C'est là le début de l'Occident pour vous ?
Oui, c'est le sac de 1204, c'est la date du sac. Alors évidemment, comme toutes ces dates de début et de fin, etc., ce sont des dates conventionnelles.
Oui.
En l'occurrence, c'est la date du sac de Constantinople par les croisés de, je crois, la quatrième croisade. Le fait que ce soit la quatrième et pas la première ou la cinquième, etc., est relativement accessoire.
Donc ça commence en 1204, croisades... l'Occident, et ça se finit en 2020.
Voilà, parce que les croisades ont matérialisé une sorte de prise de pouvoir, si vous voulez, de ce que j'appellerais moi les intellectuels. C'est-à-dire que la théologie qui, dans la culture précédente, là je reprends les catégories d'Oswald Spengler, c'est-à-dire la culture magique, la culture du premier millénaire après Jésus-Christ, dans cette culture-là, la théologie s'occupait, si vous voulez, de l'au-delà, s'occupait de la transcendance. Et puis, à la charnière des deux millénaires, c'est devenu finalement une puissance temporelle, c'est-à-dire finalement la puissance des intellectuels. C'est-à-dire que vous avez un pape, qui, comme le pape actuel d'ailleurs, hein, comme ce François qui nous dit que le résidage, pour reprendre le code de Slobodan Despot, est un acte d'amour, sont en réalité des secrétaires généraux, des intellectuels en chef d'une bureaucratie idéologique qui dit aux gens où il faut aller se battre, tuer qui, etc., pour que la civitas dei, l'empire du bien, advienne. Et ça a pris la première forme concrète que ça a pris historiquement a été celle des croisades. Et comme par hasard, alors même que ces croisades étaient censées était officiellement destiné à libérer les lieux saints qui gémissaient sous le joug d'infidèles. Il se trouve que le premier acte, si vous voulez, de grande bravoure militaire d'édit de croisade n'a pas eu lieu en Terre Sainte contre les Mahométans ou que sais-je, mais a consisté à détruire, saccager, piller, etc. Constantinople, c'est-à-dire la capitale de la chrétienté ancienne, de la chrétienté de ce que Oswald Spengler allait plus tard appeler la culture magique, donc, et qu'on appelle aujourd'hui la chrétienté orthodoxe. Donc en réalité, c'est l'avènement à la fois du catholicisme, en même temps de l'Occident, et finalement du progressisme, parce que ces gens-là, ils étaient obscurantistes, vous voyez, c'était des ennemis de la science. Donc il était bien naturel que, comme en plus on avait besoin d'un peu de ressources, etc., pour continuer la campagne, on prélève sur eux, hein, puisque bon, finalement, ce n'est pas des vrais chrétiens. Ce dont on a besoin, alors s'il faut le faire par le sabre et par on l'a fait, hein, c'est comme ça, c'est comme les champs de pétrole en Irak et en Syrie, on fait pas d'omelette sans casser deux. Et donc moi j'ai décidé de prendre cette date, si vous voulez, de façon évidemment conventionnelle.
Voilà, ça aurait pu être une autre, mais c'est celle-ci. Merci Modeste,
oui.
Modeste Schwartz. Oui. Vous publiez donc Covid 1204-2020. Aux éditions Culture et Racines. C'était passionnant. Et puis j'ai bien compris qu'il y avait plein de choses. Il y a des rebondissements. Et on prend... Écoutez, j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à vous réentendre, qu'on fasse encore une autre émission.
Voilà. Oui, c'est quand vous voulez. Voilà. C'est quand vous voulez.
C'était passionnant. Les auditeurs qui nous écoutent dans leur voiture, par exemple, qui prennent l'émission en route, sachez que nous allons mettre dans les heures qui viennent sur le site internet de la radio les références et le lien vers les éditions Culture et Racines et le et les livres de Modeste Schwartz. Merci, Modeste.
J'espère juste ne pas avoir provoqué trop d'accidents.
Merci pour cette note d'humour.